VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde, aujourd'hui édition du jeudi 22 juin 2017 en direct de Washington. Idrissa Sedoulia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
Un attentat suicide de Boko Haram fait 8 morts et des blessés dans l'extrême nord du Cameroun.
Quelques 600 casques bleus congolais accusés d'abus sexuels et de manquements en Centrafrique vont être rapatriés, a annoncé hier l'ONU.
Au Mali, le référendum constitutionnel prévu pour le 9 juillet prochain a été reporté à une date ultérieure.
Début aujourd'hui en Ouganda du sommet de la solidarité pour les réfugiés en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Les États-Unis regrettent l'annulation par la Russie d'une rencontre bilatérale prévue cette semaine à Saint-Pétersbourg en représailles à l'adoption de nouvelles sanctions américaine contre Moscou.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, un nouvel attentat kamikaze attribué à Boko Haram a fait 8 morts et 3 blessés hier à Kolofata dans la région de l'extrême nord, à la frontière avec le Nigeria. Les deux jeunes garçons auteurs de l'attentat sont morts ainsi que 6 civils camerounais. L'attentat a été perpétré aux environs de 17h30, heure à laquelle les fidèles musulmans faisaient leur prière de rupture du jeûne du Ramadan à Kolofata. À Yaoundé, Emmanuel Djelunta.
Visiblement, les kamikazes voulaient faire un grand nombre de victimes, à en croire Babila Arua, préfet du Mayo-Sava, joint au téléphone.
Les deux kamikazes sont arrivés en vélo. Ils sont venus s'introduire là où il y avait les rassemblements des gens. Deux kamikazes qui ont fait exploser derrière la maison du premier ministre Amadouani.
Kolofata enregistre son troisième attentat kamikaze depuis le début du mois de juin 2017. Y aurait-il alors péril dans le rôle des comités de vigilance? Le préfet du Mayo-Sava croit le contraire.
Les comités de vigilance font leur travail. Les leaders de cette section croient aux adeptes que quand on pose l'action, on va directement au paradis en cette période de jeûne de Ramadan. Voilà un peu des raisons qui justifient la recrudescence du phénomène, particulièrement dans la zone de Kolofata.
Trois attentats kamikazes sur trois sites différents, le Cameroun est encore de plein pied dans la guerre contre Boko Haram. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
L'ONU a annoncé hier qu'environ 600 casques bleus congolais déployés en Centrafrique et accusés d'abus sexuels et de manquements vont être rapatriés. Le gouvernement du président Denis Sassou Nguesso a décidé de retirer ses troupes déployées dans le cadre de la MINUSCA après que le chef militaire de cette mission onusienne s'est plaint du comportement du bataillon congolais, précise un communiqué de l'ONU.
Au Mali, le référendum constitutionnel prévu pour le 9 juillet prochain a été reporté à une date ultérieure. La décision a été prise lors du Conseil des ministres d'hier. Ce report fait suite à une saisine de la Cour constitutionnelle par des députés de l'opposition de Bamako, Kassim Traoré.
Ils sont une vingtaine de députés de l'opposition à introduire une requête au niveau de la Cour constitutionnelle en application de l'article 88, alinéa 2 de la Constitution. Pour ces députés, le projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992 qu'il a initié en application des dispositions de la dite Constitution viole l'article 118 de la même Constitution. Dans leur requête qui a été reçue dans sa forme par la Cour constitutionnelle, ils dénoncent la manière dont la révision constitutionnelle a été initiée par le gouvernement. C'est pour cela que le ministre des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État a informé le Conseil des ministres de la saisine de la Cour constitutionnelle d'une requête en date du 16 juillet 2017 aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi numéro 2017-31-ANRM du 2 juin 2017 portant révision de la Constitution du 25 février 1992. En plus de la requête des députés de l'opposition. Le Conseil des ministres, lors de sa session du 21 juin 2017, a décidé du report à une date ultérieure du référendum initialement prévu pour le 9 juillet 2017. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le vice-président angolais Manuel Vicente a été renvoyé en procès par la justice portugaise. Elle le soupçonne d'avoir versé des pots de vin en procureur pour qu'il classe deux enquêtes le visant en 2012, selon une décision citée par l'agence de presse Lusa. M. Vicente, qui était président de la compagnie pétrolière angolaise Sonangol à l'époque des faits présumés, a protesté de son innocence.
Coup d'envoi aujourd'hui du sommet de la solidarité pour les réfugiés. L'événement se tient jusqu'à demain en Ouganda, en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les détails avec Morgane Guiriek.
L'Ouganda, qui abrite plus d'un million de réfugiés, entend profiter de ce sommet pour récolter 8 milliards de dollars afin de venir en aide aux populations qu'elle accueille. Ce pays a une approche particulièrement progressive vis-à-vis des réfugiés. Au lieu de les placer dans des camps, Kampala préfère leur donner un petit lopin pour cultiver et construire une petite maison en terre. Les réfugiés ont également le droit de travailler. Chaque jour, ce sont près de 2000 réfugiés sud-soudanais qui traversent la frontière, ce qui met parfois la population locale en difficulté. La nourriture vient à manquer, alors que le programme alimentaire mondial dit réduire les rations. La sécurité alimentaire est d'autant plus compromise que l'Afrique de l'Est traverse une grave sécheresse. L'ONU et 57 agences caritatives intervenant en Ouganda disent n'avoir recueilli que 18% de l'enveloppe de 1,4 milliard de dollars dont elles ont besoin pour aider les réfugiés cette année.
Le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU a déclaré hier que le cessez-le-feu unilatéral déclaré par Salva Kiir, le président du Soudan du Sud, ne s'est pas matérialisé et que le pays reste instable. Jean-Pierre Lacroix a par ailleurs demandé au Conseil de sécurité et à la communauté internationale d'appeler toutes les parties à respecter le cessez-le-feu pour permettre aux acteurs humanitaires de venir en aide aux populations éprouvées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, des officiels américains ont dit à des membres du Congrès qu'il n'y a aucun doute sur la vaste ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016 aux États-Unis. L'objectif de Moscou était d'aider le candidat républicain Donald Trump à battre sa rivale démocrate Hillary Clinton. Mais selon les mêmes officiels, rien n'indique que les Russes aient été capables d'influer sur le décompte des voix. L'ancien secrétaire à la sécurité intérieure Jay Johnson et une responsable du même ministère, Janet Manfra, ont déposé hier sur le piratage du Parti démocrate et les tentatives d'infiltration russe des systèmes électoraux des 21 États américains. Le président russe Vladimir Poutine a démenti toute allégation d'ingérence de son pays dans la présidentielle de 2016.
Les États-Unis disent regretter l'annulation par la Russie d'une rencontre bilatérale prévue cette semaine à Saint-Pétersbourg, décision prise en représailles après l'adoption par Washington de nouvelles sanctions contre Moscou. Les précisions de Rosine Monizero.
Estimant que les nouvelles mesures américaines résultaient de la russophobie de Washington, Moscou a décidé de ne plus organiser cette réunion de haut niveau à laquelle devraient prendre part Tom Shannon, haut responsable du département d'État, et Sergei Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Ce dernier a prévenu dans un communiqué que la mesure américaine ne restera pas sans réaction, y compris sans mesure de rétorsion de la part de son pays. Nous regrettons que la Russie ait renoncé à une opportunité de discuter des obstacles bilatéraux qui entravent les relations États-Unis-Russie, a déclaré de son côté la porte-parole du département d'État. À l'origine de la vive réaction des autorités, l'annonce mardi par le département du Trésor américain d'une nouvelle série de sanctions contre la Russie et les séparatistes ukrainiens. Celle-ci vise spécifiquement 38 entités et individus liés au conflit ukrainien et à la question de la Crimée, notamment côté russe. Le ministre adjoint de l'économie, Sergei Nazarov, et le député Alexander Babakov.
En Irak, le groupe État islamique a détruit la mosquée historique Al-Nouri et son célèbre minaret penché Al-Abda, alors que les forces irakiennes tentent d'éradiquer l'organisation à Mossoul, l'un des derniers bastions de l'organisation djihadiste dans le pays.
Pour le Premier ministre Haider al-Abadi, la destruction de ces icônes équivaut de la part du groupe État islamique à une reconnaissance officielle de sa défaite. C'est dans cette mosquée al-Nouri que le leader du groupe Abu Bakr al-Baghdadi avait déclaré en 2014 son califat sur de vastes parties de l'Irak et de la Syrie.
Pression sur la Chine pour qu'elle accentue ses propres pressions diplomatiques et économiques sur Kim Jong-un, suspende les efforts balistiques et nucléaires nord-coréens. C'était lors de pourparlers hier à Washington entre de hauts responsables chinois et américains, dont le secrétaire d'État Rex Tillerson et son collègue de la Défense Jim Mattis.
Mais selon des sinologues, les États-Unis devront attendre moins de Pékin en raison de ses relations stratégiques avec Pyongyang. La Corée du Nord a dominé les pourparlers de mercredi après la mort cette semaine d'un étudiant américain rapatrié de ce pays après une longue détention. Enfin, la police fédérale américaine a dit enquêter sur le cas du policier poignardé hier dans l'aéroport de Flint, dans le Michigan, comme un acte de terrorisme. C'est ce qu'a annoncé le responsable local du FBI. La Minute Éco, Claire Morin-Gibault.
L'économie sénégalaise a le vent en poupe. Elle a enregistré un gain de compétitivité de 1,2% au terme du premier trimestre 2017. Le FMI va accorder 224,8 millions de dollars supplémentaires à la Côte d'Ivoire, soit 25% du quota du pays selon un communiqué de l'institution. Des fonds qui doivent être destinés à maintenir la croissance, à réduire le chômage et la pauvreté en encourageant l'initiative privée. En Éthiopie, le parc industriel d'Awassa a été officiellement inauguré. Dédié au textile et à l'habillement, ce parc est unique sur le continent car aucun déchet liquide n'est généré pour minimiser les impacts négatifs de l'industrialisation sur l'environnement. Le Premier ministre a pour ambition de faire d'Awassa le premier centre manufacturier en Afrique d'ici 2025. Luanda a détrôné Hong Kong. C'est désormais la ville la plus chère du monde pour les expatriés, selon le cabinet Mercer. N'Djamena est 16e mondiale et 3e ville africaine la plus chère, selon ce classement, suivie de Kinshasa.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe des Confédérations en Russie, pas de droit à l'erreur pour le Cameroun.
Effectivement, après leur défaite 2-0 contre le Chili, les Lions indomptables devront se ressaisir ce soir face à l'Australie. Autre choc dans ce groupe B, Allemagne-Chili, les deux équipes leaders ex aequo avant cette rencontre avec 3 points chacune.
Hier, le Portugal s'est relancé.
Oui, victoire 1-0 devant la Russie. Cristiano Ronaldo a inscrit le seul but de la rencontre à la 8e d'un coup de tête. Les Portugais occupent la première place du groupe A avec 4 points à égalité avec le Mexique grâce à sa victoire 2-1 devant la Nouvelle-Zélande.
Fin hier de la 4e journée de la Ligue africaine des champions.
Le Coton Sport de Garoua ne jouera pas les quarts de finale. Défaite des Camerounais à domicile 0-1 devant les Zambiens de Zanaco. Le club camerounais a toujours 0 point au compteur après 4 journées.
La Coupe CAF, le dernier match, s'est joué hier.
Idrissa, match nul 1-1 en Afrique du Sud entre Platinum Star et le CS Sfaxien.
Marché des transferts, le gardien de la SEC d'Abidjan, Hervé Kofi Kouakou, file à Lille.
Oui, l'international burkinabé a paraffé un contrat de 5 ans avec le LOSC. Il s'est engagé jusqu'en 2022. Hervé Kofi Kouakou est par ailleurs le premier burkinabé de l'histoire à signer dans le club lillois.
Un joueur ivoirien file en Tunisie.
En effet, Ibrahim Ouattara a signé un contrat avec le club athlétique Bizertin de Tunisie. Ibrahim Ouattara, 26 ans, attaquant des éléphants et fer de lance du stade d'Abidjan, s'est engagé pour 3 ans avec le CA Bizertin.
Victoire belge au tour cycliste de la RDC.
Oui, Brendan James a remporté hier le 5e tour cycliste de la RDC à Kinshasa. Cette dernière étape a été remportée par l'Ivoirien Bassirou Konté, alors que le prix du meilleur coureur congolais a été enlevé par Jonathan Lianza. Le Bénin a raflé l'équipe fair play du tournoi. Le Burkina, par contre, a remporté le prix de la meilleure équipe africaine. Les Pays-Bas terminent en tant que meilleure équipe européenne.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, les autorités et la HCR conjuguent leurs efforts pour un meilleur suivi des réfugiés installés sur le territoire burkinabé. C'est ainsi qu'ils ont conjointement lancé un programme d'enrôlement biométrique de quelque 30 000 personnes pour mieux suivre leurs mouvements. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
L'opération d'enrôlement biométrique vise principalement à mettre à jour la base de données des réfugiés vivant sur le territoire burkinabé. Un travail de pointe pour un enrôlement de qualité et des résultats efficaces, fait remarquer Mawa Bamba, adjointe au représentant du HCR à Ouagadougou.
Nous sommes effectivement très heureux que nous avons pu lancer cette initiative. C'est quelque chose qui est arrivé récemment au HCR et le Burkina Faso est un des pays précurseurs de la mise en œuvre du BIMS. C'est un système, comme vous avez pu le constater, d'enregistrement biométrique. Le système se base sur la capture de l'iris et aussi des empreintes. Du coup, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire des fraudes, de pouvoir faire des doublons, de pouvoir faire des mouvements secondaires entre les pays qui accueillent les réfugiés maliens et les autres réfugiés.
L'opération va aussi permettre le renforcement de la surveillance des déplacements et autres mouvements des réfugiés. Donc une initiative doublement bénéfique pour le Burkina Faso, se félicite Issa Joseph Paré, secrétaire permanent de la Commission nationale en charge des réfugiés.
Et donc cette opération est une opération conjointe qui permet au HCR et au Burkina d'avoir des données vraiment fiables sur les réfugiés. Cette opération nous rassure vraiment et nous aide à mieux gérer les réfugiés.
Les grands centres urbains de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, sans oublier les camps de réfugiés de Goudougou, Adori et Mentawadjibo, accueillent l'enrôlement. Pour les bénéficiaires, le soulagement est grand, lâche leur représentant, Orsi Emmanuel Bokodi.
Nous sommes fiers de vivre au Burkina Faso parce que le Burkinabé a ouvert le champ d'action que les réfugiés puissent vivre sur ce territoire. Ça me fait aujourd'hui 15 ans que je vis au Burkina Faso. Et ça donne une opportunité aux réfugiés de s'intégrer. Donc l'enrôlement est une palette juridique et sociale. Nous sommes intégrés, nous vivons comme les Burkinabés.
Ce travail de suivi permet de mettre en lumière des leaders. C'est le cas de Berthe Ndiapou, une réfugiée centrafricaine.
C'est la première fois que j'ai une attestation officielle. Sinon, j'avais seulement l'acquis de droit. Ça nous a vraiment raffermi. Parce qu'avec l'appui de l'UNHCR, nous avons réussi même à monter un bon projet, le Youth Initiative Fund 2017, lancé par l'UNHCR, et nous sommes sur le point de la mise en œuvre.
L'enrôlement biométrique des réfugiés va durer 2 mois environ. Il va permettre aux autorités, mais aussi au HCR, de disposer de données fiables afin de mieux gérer les réfugiés, mais également de pouvoir suivre, superviser leurs mouvements et parer à toute menace contre la sécurité nationale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, difficulté dans la mise en œuvre de l'accord politique signé lundi à Rome par des représentants du gouvernement des Nations Unies ainsi que ceux des 14 groupes armés sous l'égide de la communauté de Saint-Égidio. Cet accord prévoit un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble du territoire national alors que l'on assiste depuis le week-end dernier à un regain de violence à Bria dans le centre-est du pays. Félix Yepassi Zembrou a joint l'un des signataires de l'accord de Rome, Martin Zigele, président du Mouvement pour la libération du peuple centrafricain, le MLPC.
Oui, je pense que la particularité de l'accord qui a été signé à Rome, c'est que tous les groupes armés étaient là, le représentant du gouvernement était là, le ministre, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères et le conseiller politique du président de la République. Et l'Assemblée était représentée par son deuxième vice-président et puis un certain nombre d'invités, partis politiques, étaient là comme observateurs. Et cet accord, je pense que il sera suivi de faits parce que tout simplement une réunion a débuté ce matin à Bruxelles et regroupe toutes les grandes institutions internationales, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union africaine, la CEAC, pour approfondir les différents aspects de l'opérationnalisation de cet accord-là. Donc, on pense que pour faire la paix, il faut mettre en place des infrastructures, il faut mettre en place un certain nombre de dispositions pratiques, n'est-ce pas, et qui permettront de faire en sorte qu'il y ait quand même une avancée dans le processus, parce qu'aujourd'hui, c'est le statu quo. Et si on reste dans le statu quo, on ne fait rien, on ne tente rien, on ne pourra pas parvenir à quelque chose.
Monsieur le Président, cet accord de Rome a-t-il des chances d'aboutir, d'autant plus que l'on assiste depuis quelques temps à un regain de violence dans le centre-est du pays?
Nous pensons que les responsables des différents groupes armés doivent prendre leurs responsabilités parce que leurs représentants ont signé cet accord-là qui a des dispositions vraiment très pratiques. Cet accord de 8 pages comporte des dispositions très pratiques qui demandent leur opérationnalisation. Donc, nous pensons que le gouvernement doit faire sa part de choses. Les groupes armés doivent également donner leur engagement, traduire leur engagement en actes, notamment par la cessation des hostilités, par l'ouverture du territoire et par le retour de l'administration dans les zones qu'ils occupent actuellement, ces groupes armés. Donc, je pense qu'il faut encourager ce mouvement. Et comme je le dis toujours, vaut mieux avoir un accord et obtenir des avancées, même si elles ne sont pas spectaculaires, puisque vous faites allusion à la poursuite des combats sur le terrain, mais il y a une direction dans laquelle tout le monde s'est inscrit et il faut que cette direction soit maintenue, amplifiée, soutenue. Et nous verrons à l'œuvre, il y aura des obstacles certainement qui vont surgir, mais il faut avoir le principe que dès le moment où la volonté d'aller de l'avant existe, nous souhaitons que cette volonté soit partagée et que les résultats soient visibles, notamment par la cessation des hostilités.
Autre question, M. le Président. Cet accord de Rome prévoit-il une amnistie pour les crimes commis en Centrafrique?
J'ai lu tout le texte de l'accord, je l'ai signé, je n'ai vu aucune disposition qui parle de l'amnistie.
C'était Martin Ziegele, président du Mouvement de libération du peuple centrafricain, l'un des signataires de l'accord de Rome.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, le 20 juin 2017 marquait la fin de la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Pour les partis d'opposition et certains internautes, elle signale la fin de la légitimité de l'actuelle législature. Des voix s'élèvent pour réclamer la démission collective des députés et exiger du gouvernement la tenue immédiate d'élections législatives. André Kotmajengar.
C'est le Parti pour les libertés et le développement PLD du feu Ibn Omar Mohamed Salih qui a lancé le débat. Le PLD demande à son unique député qui siège au Parlement de démissionner. Car, selon le parti, toutes les lois, traités et autres conventions qui seront adoptées par cette Assemblée nationale après le 21 juin n'auront aucune valeur juridique. Dès lors, les internautes récupèrent et exigent sur la toile la démission de 30 opposants parlementaires sur 180 que compose l'Assemblée nationale du fait que l'actuelle législature a terminé son mandat constitutionnel de 4 ans en juin 2015. Réaction du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre Fadoul.
Ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives, c'est la situation économique et financière de notre pays. Nous faisons des gymnastiques pour honorer les salaires des fonctionnaires. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'un État se permette d'organiser des élections législatives?
Plusieurs partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se livrent à la guerre des ondes en interpellant la conscience des députés de l'opposition. Selon eux, démissionner de cette troisième législature, qu'ils qualifient d'illégale et d'illégitime au service de la dictature, est un acte responsable qui peut sauver le peuple tchadien déjà agonisé par le régime. Ils demandent au chef de file de l'opposition, lui aussi député à l'Assemblée nationale, de donner un exemple. Salih Kebzabo convoque ses collègues à un séminaire de réflexion.
Je dis tout simplement que ni moi ni un autre personne ne démissionnera. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi la polarisation sur les députés de l'opposition. Donc nous, on pense que nous nous avons un rôle important que nous jouons malgré notre nombre à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous rappelons la Constitution qui dit qu'il n'y a pas de mandat impératif et donc aucun parti politique ne peut donner un ordre à un député. Tout mandat impératif est nul et de nul effet. Les députés de l'opposition sont de vrais députés. Ils sont battus pour être élus. Ils savent ce que c'est qu'une élection. Beaucoup de ceux qui font du bruit ne savent pas ce que c'est qu'une élection. Nous ne sommes pas des députés décrétés.
Le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre Fadoul, rappelle aux députés la loi numéro 11 qu'ils ont eux-mêmes adoptée en février 2015 et promulguée par le président de la République le 12 mars de la même année.
J'étais à l'époque à l'Assemblée nationale, j'étais présent. La loi constitutionnelle a été adoptée pour dire qu'en attendant la mise en place d'une prochaine Assemblée nationale, cette Assemblée nationale va continuer à siéger. Ce n'est pas le président Idriss Déby qui a signé un décret pour dire « Allez, je vais prolonger le mandat de député ». Donc c'est assez curieux de voir surgir ce débat-là aujourd'hui.
André Kodumadjingar Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les Nations Unies et l'Union africaine appellent l'Érythrée et Djibouti à l'apaisement après une montée de la tension à la frontière entre les deux pays, objet de litige. Cette nouvelle tension fait suite au retrait des troupes du Qatar de la zone litigieuse après que Djibouti a exprimé son soutien à l'Arabie Saoudite dans la crise entre voisins du Golfe. Quel risque pour la Corne de l'Afrique ? Abdourahman Dia a posé la question à René Lefort, spécialiste de la région.
On constate que par tous les moyens, l'Éthiopie cherche à calmer le jeu. D'abord, ils ont refusé de prendre parti entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, les alliés dans le conflit. Ensuite, ils ont saisi le Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité a lancé un appel au calme, etc. Et ils ont joué un rôle important pour que l'Union africaine décide de l'envoyer à la frontière entre Djibouti et l'Érythrée pour voir réellement ce qui se passe. Pour le moment, en tous les cas, il semble que l'Éthiopie joue un rôle modérateur et très modérateur dans cette affaire.
L'inquiétude vient surtout du fait que l'Éthiopie et Djibouti sont proches.
Il y a quelques mois, plusieurs déclarations de dirigeants éthiopiens disant que finalement l'Éthiopie et Djibouti ne devaient au bout du compte ne former qu'un seul pays. Bon, Djibouti est capital pour l'Éthiopie parce que 90% des importations et des exportations d'Éthiopie, qui comme vous le savez n'a plus d'accès à la mer, elles se font via Djibouti. Donc pour eux, il est absolument vital que cette ligne de communication continue. Donc c'est pour ça qu'ils sont extrêmement attentifs.
L'Union africaine dans tout cela, l'UA a décidé d'envoyer des émissaires dans les deux pays pour essayer aussi de calmer le jeu. Vous pensez que l'Union africaine peut faire quelque chose ?
Que diplomatiquement c'est important que l'Union africaine calme le jeu. C'est quand même important et elle le fait de façon extrêmement claire. Et de la même façon, il est très intéressant de constater, pour revenir à ce que je vous disais auparavant, l'organisme de coopération entre les pays de la Corne, de nouveau avec une forte intervention éthiopienne, l'IGAD de la même façon a appelé au calme entre l'Érythrée et Djibouti.
Un conflit armé entre les deux pays pourrait se généraliser dans la région, ça pourrait être un conflit régional.
Ah, si l'Érythrée décidait vraiment d'intervenir à Djibouti, ce que rien n'indique pour le moment, absolument rien, okay, alors là effectivement je pense que pour l'Éthiopie c'est un cas de jubilé.
C'était René Lefort, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel. VOA Afrique. Peace Africa.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Dressa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.